Ce souvenir, les yeux fermés. Raphaël Régnier, Nathalie Salle.
Cher toi, hier encore j'ai vu le ciel s'embraser, la morsure de la nuit dévorait l'hégémonie du jour avant de disparaître dans la gueule du soir. Cela a pris le temps d'un souvenir sans que jamais je n'ai pu distinguer clairement où s'établissait la ligne de rupture. C'est peut-être ça l'harmonie, considérer le tout sans dissocier ses parties apparentes. Il avait suffi de lever les yeux. Souvent, à travers la vision, on a tendance à croire qu'on a intégré l'ensemble de ce qu'il y a à voir, à vivre, et en fait, c'est très partiel. Je suis fasciné par le point de vue des animaux, alors que pour autant, ils pratiquent un autre langage que le mien. Et de la même façon, je me rappelle, quand j'étais à l'école, avoir beaucoup pesté contre les professeurs qui exigeait que ce qui était motivé par le sens de la vue doive s'argumenter sans cesse, alors qu'en ce qui concerne le goût ou le tactile, il n'y a pas de, ou très rarement, de justification à faire. C'est bien la preuve qu'on connecte trop la vue à l'étage mental et non pas à l'ensemble des sens pour produire ce fameux sixième sens qui sont nos instincts, qui sont notre singularité et qui est, je crois, la seule façon de vivre à travers l'expérience et non pas l'idée de l'expérience. Heureusement, ce soir-là, le ciel était joli. De la fenêtre de ma chambre, j'ai regardé les étoiles. Puis j'ai appuyé fort sur mes paupières pour continuer à les voir et à retrouver Vénus. C'est fou tout ce qu'on peut voir les yeux fermés. Je grandissais lentement. J'avais si peur.
Je replonge souvent dans le monde de mon enfance parce que c'est en fait le dernier lien que j'ai avec le monde visuel. Vu que j'ai perdu la vue à 10 ans, je me raccroche en fait à toutes les bribes visuelles qui peuvent me rester. Et j'ai accumulé en fait au fil des années beaucoup d'impressions, beaucoup de couleurs, de formes, et j'y repense très souvent parce que j'essaye d'entretenir absolument cette mémoire au fil du temps, et j'en ai pris assez vite conscience. Il y en a une foultitude dans ma tête, c'est un peu difficile de faire le tri. Mais la première qui me vient, c'est l'atelier de peintre de mon père, qui se situait au-dessus de notre appartement, dont j'y montais fréquemment. un étage, et toc-toc à la porte, mon père m'ouvrait, et tout de suite, c'était les odeurs qui me reviennent comme ça en foule, dans la tête, dans le nez. Il était toujours en train de restaurer des objets. Notamment, je me rappelle, il a travaillé très très longtemps à la restauration d'une harpe ancienne qui appartenait à un collectionneur genevois. Et cette harpe, j'en ai une image extrêmement précise. Elle était verte, d'un vert foncé, un peu vert sapin, et toute dorée, complètement dorée à leur fin. Et le travail de restauration qui avait été confié à mon père, c'était justement de refaire toutes les parties à leur fin. Et je me rappelle que des fois, les petites feuilles d'or voltaient dans l'air et ça l'énervait beaucoup parce qu'il fallait absolument les récupérer. Évidemment, c'est un matériau qui coûte cher, donc il ne fallait pas le laisser perdre. Et je pouvais rester des heures assise par terre près de lui à regarder ses mains. Il avait de très belles mains, très expressives, vraiment des mains œuvrantes, des mains douces, avec des beaux ongles toujours bien coupés, bien polis, et des bras bien présents, ronds, avec un tatouage qui me fascinait sur l'avant-bras. Il avait une étoile, genre une étoile à la Jean Cocteau, qui était un grand tatouage bleu sur l'avant-bras. Et ça me fascinait quand j'étais petite fille, j'essayais de toujours nettoyer cette étoile. Alors j'apportais tout le matériel de désinfection, etc., pour essayer d'enlever cette étoile. Mais évidemment, heureusement, elle restait.
Donc là, j'ai 12 ans, je suis en Tanzanie, on est en haut d'une colline pour pique-niquer, donc on est en plein safari, donc on pique-nique, et puis donc devant nous, la colline descend, ouais, assez raide, donc pas une falaise, mais c'est très pentu, et je dirais 300-400 mètres en dessous, donc il y a la savane, donc ça c'est le Roi Lion, hein. C'est vraiment la savane comme le générique du Roi Lion, c'est... Avec une rivière pas très large, où je dirais, ouais, non, une rivière qui fait 5-6 mètres de large au milieu. Et donc là, ça fait le contraste parce qu'il faut imaginer la terre, donc qui est quand même en mix de sable et de feuilles très sèches, donc c'est très clair. Ces arbres typiques comme dans le Roi Lion, donc avec des troncs très fins et des feuilles, enfin, absolument pas les arbres touffus. Et il y a un éléphant. Donc il longe la rivière en venant donc direction la colline, droit sur la colline quoi. Et derrière l'éléphant, il y a une masse de zèbres, gazelles, antilopes, gnous, enfin toutes ces machins qui sont généralement bouffés par les lions, qui traversent justement cette rivière. Là, il faut vraiment imaginer le générique du Roi Lion en fait. Et dans le ciel, il y a un faucon qui tourne en rond, enfin qui plane, donc qui vole même pas, qui vraiment se laisse planer en tournant en rond. Et il faut vraiment juste imaginer la savane à perte de vue. Donc il n'y a pas une montagne, rien. Quoique je me demande s'il n'y a pas le Kilimandjaro au bout. Ça, c'est pas un peu. Oui, peut-être qu'il y a le Kilimandjaro au bout. Ouais.
Alors, donc, moi, c'est beaucoup les feux d'artifice, toutes ces couleurs et ces formes que je garde bien en mémoire. Vraiment l'impression d'être à l'intérieur, de voir ça un peu partout autour de moi. C'est quelque chose qui est très fort parce que mon père travaille comme artificier. Donc j'ai vécu ça depuis tout petit et encore aujourd'hui je le vis à ma manière, par l'écoute. Et c'est vrai que visuellement c'est quelque chose qui me reste, que j'arrive facilement à m'imaginer aujourd'hui par rapport au bruit des bombes, au sifflet, au crépitement. Donc toutes ces choses que j'ai vues, j'arrive parfaitement à me les représenter aujourd'hui. Et j'en garde une bonne mémoire, même si c'est pas toujours juste. Au moins je vis le feu à ma manière.
Et ton propre visage, quelle dernière image tu en gardes ?
Aujourd'hui, c'est donc un visage jeune, donc toujours d'il y a 15 ans en arrière. Les traits fins, les cheveux rasés, très très courts, plus qu'aujourd'hui. Et un visage très ouvert, souriant, un peu innocent vu que j'étais jeune. Et ouais, très très fin, très mince. Je pense qu'aujourd'hui, il n'a pas énormément changé, mais il a dû vieillir un petit peu quand même. C'est vrai qu'à l'époque, moi, j'avais pas de barbe, pas de moustache, donc voilà. Même si aujourd'hui, j'en ai pas beaucoup, mais à l'époque, pas du tout. Donc c'est vraiment cette image de moi que je garde. Ouais.
Les images les plus fortes, donc c'était le voyage en Inde, donc c'était le dernier voyage que j'ai vu, c'était à Mysore, donc dans le Kerala, dans le sud de l'Inde, et c'était donc le palais du Maharaja, donc qu'on avait visité la journée, bon, qui n'avait rien de spécial, c'était un palais quoi, mais le soir, ce qu'ils faisaient, c'est qu'une fois que la nuit était bien tombée, ils éteignaient toutes les lumières et en fait rallumaient tout avec des dizaines de milliers de petites ampoules qui étaient mises tout autour du palais, en fait, sur les murs du palais. Ça faisait toute la silhouette du palais complètement en lumière. Et ça reste une des images que je me souviens le mieux. Parce que même si j'étais très malvoyant à ce moment-là, c'était tellement puissant la lumière que du coup, là, il n'y avait pas besoin de... Je voyais suffisamment pour deviner, en fait, le palais. Donc ça, c'était assez impressionnant. Peut-être que je regardais un peu plus intensément parce que justement je voyais moins bien, donc je passais plus de temps à regarder les choses pour essayer de voir un maximum. Mais après, je pense que ce qui s'est passé, c'est vu que je suis devenu aveugle vraiment 10 jours après être rentré, tout ce que j'avais vu en Inde en fait m'est resté parce que ça reste, c'est symbolique, c'est le dernier voyage que j'ai vu, donc du coup voilà. Là pour le coup j'ai fait aussi jouer le toucher parce qu'il y avait beaucoup de temples et tout ça, donc je touchais toutes les sculptures qui étaient gravées sur les murs et tout ça. Mais c'était plus parce que j'avais besoin de temps pour deviner un maximum de choses, plus que parce que j'avais envie d'essayer vraiment de mémoriser cette image, parce qu'il y avait des chances que je devienne aveugle peu de temps après.
La dernière image que je me rappelle, j'ai 10 ans et je suis à Lézin, dans une station des Alpes vaudoises, dans la partie supérieure de cette station où on surplombe les maisons et je vois au loin, avec une paire de jumelles, une colline boisée. Et en étant à cet endroit-là, d'une manière un peu surplombante sur le village, j'entends en fait le bruit de la vallée avec un petit vent qui souffle, parce que c'est l'été, et la lumière est plutôt vive, et elle m'aide en fait à apercevoir plutôt le paysage d'une manière détaillée que si c'était une lumière plutôt rasante. Quand je repense à ce moment-là, il y a une émotion qui ressort en disant « je dois à tout prix garder encore une image ». Par contre, je ne pensais pas qu'elle allait disparaître au fur et à mesure du temps. Et c'est vrai que maintenant, comme je vis et comme je gère mon environnement, je n'ai plus du tout aucune image. Et en fait, le temps, quand il passe, le détail de ce paysage devient de plus en plus flou, se simplifie au fur et à mesure, perd de ses couleurs. C'est comme les nymphéas de Claude Monet, où il y avait beaucoup de détails sur ses premiers tableaux, puis au fur et à mesure qu'il est peint, ces tableaux sont devenus de plus en plus abstraits, et on finit finalement par des taches. Et pour moi, c'est la même chose. J'avais un paysage en tête qui était très précis, avec beaucoup de détails, et au fur et à mesure que le temps passe, ce paysage venait de plus en plus simplifié, puis il n'y a plus que les formes générales du paysage que je me rappelle. Maintenant, pour moi, quand je me le représente, c'est plutôt une émotion. J'avais plutôt un sentiment de perte, en fait, en disant « c'est peut-être la dernière fois que je verrai ce paysage ». J'avais plutôt un sentiment de perte que de tristesse.
J'ai perdu la vue, il y a eu une espèce de période d'adaptation où, bon, j'étais très jeune, peut-être que j'ai mis un moment pour réaliser que, ô combien c'était important que j'essaye de tenir toutes ces informations que j'avais accumulées pendant les 10 premières années de ma vie, que je les maintienne vivaces. Et j'ai opéré presque instinctivement un travail de mémoire pour justement essayer de conserver notamment le monde des couleurs, qui est très important pour moi. J'ai beaucoup dessiné pendant mon enfance, et j'avais une grande boîte, je ne me rappelle plus du nombre de couleurs, mais c'était énorme, avec tout le nuancier des couleurs, ce qui me privilégie en fait dans cette mémoire des nuances, des couleurs que j'ai. C'est-à-dire, si on m'évoque un bleu cobalt ou un bleu lapis-lazuli, j'arrive à me recréer ces bleus dans l'esprit. C'est comme une sorte de gymnastique que j'essaye d'exercer chaque jour. Je me concentre, j'essaye de me représenter toutes les nuances de bleu dont je me rappelle. Le bleu turquoise, le bleu indigo, que j'adore parce qu'il est entre le bleu et le violet. Et c'est comme des flashs qui qui s'impriment dans mon cerveau. Et c'est vraiment comme si je les voyais au fur et à mesure que je les évoque, je les vois.
On imagine ce qu'on veut. Les gens nous décrivent, mais au final, ils disent une montagne, ou une montagne, ça peut être une montagne qui monte à 1000 mètres, on peut imaginer une montagne qui monte à 7000. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a rien qui nous dit stop, en fait. Et ça, du coup, c'est, je veux dire que c'est vraiment bien. Et puis après, on utilise les autres sens, donc l'ouïe, l'odorat et tout ça, pour créer une atmosphère. Moi, je suis sûr que quand j'imagine les endroits où je suis allé, ou quand j'imagine ne serait-ce que Montréal, j'imagine un truc tout à fait irréel. Et je trouve ça bien parce qu'on imagine ce qu'on a envie de voir, en fait. De mon point de vue, moi, j'ai pas de limitation parce que j'ai vu pendant 14 ans quand même. Et je dis pas que j'ai tout vu, mais j'ai vu quand même beaucoup de choses. Et j'utilise ce beaucoup de choses pour créer mon panorama qui, lui, est complètement imaginaire au final. Quelqu'un qui a jamais vu, je sais pas comment lui. On peut imaginer typiquement quand on me dit là il y a un coucher de soleil magnifique, moi j'imagine tout de suite, alors le coucher de soleil, je vois à quoi ça ressemble, j'ai les couleurs en tête, et puis après je peux rajouter des éléments, j'adore mettre des montagnes, un lac et tout. Et même si on me dit il n'y en a pas, j'ai rien qui me prouve qu'il n'y en ait pas, en fait, à part la parole des autres. Donc dans ma tête, je peux tout à fait imaginer quelque chose d'irréel, et en utilisant tous les éléments que j'ai vus pour rendre le souvenir plus encore plus impressionnant, et du coup, en fait, je m'en souviens encore mieux. Typiquement, un paysage lunaire en Islande, c'est des cailloux partout. Enfin, on voit que du caillou, et très loin au fond, ou un volcan. Bon, alléluia, c'est quand même assez, au final, répétitif comme paysage. Et quand on voit pour la première fois, en fait, on s'en rend même pas compte, parce que c'est tellement magnifique, ça a sa beauté, en fait. Malgré le fait que ce soit toujours la même chose, vu qu'on n'a jamais vu ça, c'est impressionnant, donc on n'y pense pas. Mais quand on regarde les photos, les films et tout ça, c'est vrai que, en fait, c'était toujours un peu le même genre de paysage. Moi, ça me permet, au lieu de me dire ça, j'imagine plus de, typiquement plus de volcans, ou alors une source d'eau chaude qui avait, voilà, avec peut-être un peu plus d'herbe. Il y a de l'herbe nulle part dans ce pays. Typiquement, ces paysages de falaises au bord de l'eau, je peux les imaginer avec encore plus de mouettes et de macareux, ou encore plus d'air. Donc en soi, oui, je rajoute de la couleur, parce que si je rajoute ça, c'est pour faire plus de contraste, parce que toutes les couleurs se contrastaient vraiment, et du coup, ça rendait le paysage magnifique. Je les recompose, mais je sais, vu que j'ai vu l'Islande, et je veux dire, à 11 ans, je voyais à 98% de l'œil droit, donc je voyais très bien. Donc je recompose, et je rajoute. En fait, je recrée... Je prends la base, en fait, d'un des pays où j'ai été, et puis je rajoute des éléments du pays où j'ai été, pour que ça reste quand même réel, mais je l'embellis. J'imagine tel endroit en Tanzanie, donc du coup, je me dis, je peux rajouter des zèbres, je peux rajouter des gnous, enfin, des genres de choses, quoi.
On va aller se promener. Prends-prends.
Oui.
Allez, go, vive, go, 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 go.
Je ne peux plus fermer les yeux. Je ne veux plus attendre. Je veux des nuits de jour, de feu, d'où montent des constellations de cendres. Une astronomie incandescente pour un monde enténébré. Être loup pour filer ces étoiles-là. inventer un chemin tout en brûlure et en soleil jusqu'à l'aurore. La paupière est le lest des gens éteints. Elle clôt chaque soir un sanctuaire d'histoires déjà mortes. De méthode en méthode, ils érigent la léthargie en postulat de vie, un éther vague pour des gens flous. J'en ai assez de connaître le lyrisme de l'inconscient sous le cercueil d'un corps inerte quand il le faudrait, palpitant. Alors je profanais les songes.
Je fais souvent un cauchemar où il y a un genre de court-circuit qui se passe, il y a mon lit qui commence à brûler et je sens en fait qu'il y a le feu qui arrive, donc une chaleur qui vient sur moi et j'aimerais partir et je ne retrouve pas la porte, la poignée de la porte et ça me fait stresser. Puis au moment où souvent je retrouve la poignée de la porte avec le toucher, je me réveille.
Alors, je rêve énormément en images. Beaucoup d'images, je pense, par rapport à ce que j'ai déjà vu étant plus jeune. Je vois des choses comme si j'étais parfaitement voyant. Ça m'est déjà arrivé de m'imaginer au volant d'une voiture ou d'une moto, de courir dans la rue, et tout ça en voyant parfaitement et en étant plus ou moins à l'âge d'aujourd'hui. D'autres fois, c'est comme si je vois mieux qu'aujourd'hui, mais je suis déjà malvoyant. Et d'autres fois, je suis comme aujourd'hui, je vois quasiment rien du tout. Donc je pense que c'est vraiment un mélange des images que j'ai pu voir étant plus jeune. Et tout se mélange dans ma tête et ça produit ces rêves-là qui sont très, très bizarres. Parfois très imagés, parfois pas du tout. Donc quelquefois, ça reste que des sons et parfois c'est très imagé. Ouais. J'ai perdu la vue à l'âge de 9 ans et je me rendais pas compte que c'était quelque chose propre à moi-même. Pour moi, tout le monde à cette époque perdait la vue, enfin passait par où je passais. Donc j'ai pas vraiment pu m'imaginer ce qui m'arrivait vraiment. Alors c'est assez une chance, mais visuellement, du coup, ça m'a pas permis de me focaliser sur quelque chose en particulier. Et en revoyant quelques années plus tard, j'étais vraiment tout content de pouvoir revoir à nouveau, de pouvoir lire ce que j'écrivais. Donc ça, c'était quand même quelque chose d'assez fort. Et qu'aujourd'hui, je regrette beaucoup. C'est vrai que j'ai facilement recours à mon imaginaire pour mettre une image voilà, sur ce que je vis tous les jours. Alors que quand je voyais, c'était quand même naturel. Donc j'utilisais pas mon imagination pour... j'en avais pas besoin pour me représenter ce que je vivais. Et très souvent, voilà, pour décrire des paysages ou plus des objets, plus que des personnes, en fait. Je peux imaginer un paysage sans penser que dans ce paysage, il y a des choses qui ne sont pas forcément jolies à voir. Donc c'est vrai que je vais plus idéaliser ce que je peux percevoir, ce que je peux imaginer, que ça ne l'est dans la réalité. Ça m'arrive de me dire que j'ai quand même de la chance de pouvoir constater les choses comme je les imagine moi, de ne pas voir certaines choses qui sont parfois des horreurs. J'ai quand même un imaginaire d'enfant, donc quand même innocent par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui, à toutes les horreurs. J'ai pas là, ces souvenirs visuels des guerres qu'on peut voir aux informations, dans les journaux. Ça, c'est des choses que je connais pas du tout. Donc une vision d'horreur, pour moi, ça n'existe pas.
Le lit qui trône au milieu de ma chambre, hein. Somptueux. C'est un lit qui doit dater du milieu du 19e siècle. On est en pleine période empire, en pleine période romantique. Il est en acajou, il est presque carré, 1m90 sur 1m90, 1m90 sur 1m90. Les côtés sont complètement marquetés et il est dit à col de cygne, c'est-à-dire que il y a un retour en forme, oui, de col de cygne avec les plumes, la tête du cygne qui est sculptée. Mes deux chats profitent très très largement de ce lit, surtout la femelle, dont j'ai deux chats persans, qui sont plutôt blancs, donc à poils longs, les yeux bleus, la petite frimousse écrasée. Et elle aime tout particulièrement passer des heures et des heures très lascivement, très paresseusement sur ce lit. J'ai vu le lit pendant mon enfance, parce que c'était le lit de mes parents. Après, j'en ai hérité, ma mère me l'a légué. Et je me rappelle, j'ai une image tout à fait précise de ce lit. En même temps, ça fait bizarre de me dire que j'ai probablement été conçue dans ce lit. C'est un lit, oui, chargé d'histoire, chargé de souvenirs. Il a traversé pas mal d'époques.
C'est un cocon aussi.
C'est un cocon aussi, bien sûr. C'est un cocon de rêve, de méditation.
De plaisir.
De plaisir, d'amour.
Oh, oh coquine.
Thank you.
Le soir, je fabrique mes souvenirs avec les morceaux de ma journée. J'essaie aussi de réparer ce qui s'éloigne. Mon cœur est vaste. Je voudrais tout garder, mon chien, mes amis, mes grands-mères et le plaisir des premières fois. La mémoire est une empreinte fragile.
Les souvenirs, les émotions étaient sûrement des objets délicats. Il ne fallait surtout pas appuyer, tirer sur eux de toute sa force. Il fallait être négligent, les toucher du bout des doigts, du bout des rêves.
Pour la naissance de Dylan, c'était très difficile justement parce que c'était une situation que je n'avais jamais vécue, donc aucun souvenir, aucune image à laquelle j'ai pu me repérer, si ce n'est ce que j'ai pu voir dans des films, des documentaires, mais qui n'est pas vraiment représentatif de la réalité. Donc j'ai dû imaginer ce qui se passait un peu de toutes pièces. Donc je sais voilà aussi que c'est très loin de la réalité. Et là je pense que je l'ai totalement idéalisé. Je voulais bien imaginer ce que je voulais voir, ou voir ce que je pouvais imaginer. Et je pense que voilà, c'était vraiment pour moi très joli, peut-être pas suffisant par rapport à la réalité, ou peut-être même que ça dépassait la réalité, ça je peux pas le dire. Mais je pense que voilà, ça a été inventé plus ou moins de toutes pièces. Bon, bah, la naissance, voilà, un bébé, donc le mien, qui naît, donc je ne sais pas du tout à quoi il ressemble, je n'ai pas encore eu l'occasion de le toucher. Les infirmiers et les médecins l'ont pris tout de suite, donc je ne savais pas du tout à quoi il pouvait ressembler. Et la première fois que je l'ai eu tout près de moi, bah, l'imaginer si petit, si fragile, comment le décrire? Donc oui, comme tous les pères, on idéalise son enfant, mais là en plus, dans mon imaginaire, je devais l'idéaliser davantage. Donc je le voyais petit, fragile, tout blanc, pas beaucoup de cheveux, et c'était le cas, ça j'avais pu le toucher. Et voilà. Il est resté très silencieux, il n'a pas pleuré quand il est sorti. Et donc les médecins l'ont tout de suite pris pour aller en salle de soins, pour vérifier que tout allait bien. Et il est resté toujours très très calme. Donc il n'a pas pleuré, il y a eu à peine quelques bruits. Donc oui, c'était vraiment très émouvant de pouvoir voilà, enfin le toucher après tous ces mois et puis de l'imaginer. Je le ressentais tel que je l'avais imaginé avant qu'il naisse. Je m'en étais déjà fait une image, et après sa naissance, cette même image est restée. Donc je ne sais pas s'il est vraiment comme je l'imagine, mais en tout cas j'ai toujours conservé cette image de lui avant la naissance et après.
J'avais fait un tour dans les profondeurs. C'était vrai. Il y avait en moi une chambre secrète. Quand j'avais la bonne idée d'y descendre, toute chose devenait simple et sûre. Les gens en particulier s'y trouvaient lavés de leurs apparences. Dans un mot doux, je pouvais entendre une menace. Dans une vantardise, la peur. Et cet endroit de clarté, était-ce drôle ? C'était simplement cet espace intérieur qui m'était devenu familier quand à 8 ans, j'étais devenue aveugle.
Panorama, j'ai pas d'image devant moi, j'imagine pas, j'ai pas une photo de la personne devant moi, c'est vraiment genre je crée quelque chose dans ma tête que je ne vois pas, mais je sais à quoi ça ressemble, voilà, ouais, c'est pas évident d'expliquer ça. On pourrait appeler ça une image intérieure, oui. C'est pas quelque chose, oui, voilà, oui, en fait, ce serait clairement ça, parce que c'est pas quelque chose qui se voit, c'est quelque chose qu'on sait, on voit pas, mais on sait. Après, je dis qu'on sait. Et c'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on imagine d'où, mais ça peut être tout à fait faux. Enfin, en tout cas, les aspects physiques de la personne, on imagine quelque chose, mais si ça se trouve, c'est complètement l'opposé. Je dirais que c'est l'avantage de la chose au final, qu'on n'est pas bloqué par la vue, justement.
Bienvenue à Victor Reader, Les Orpailleurs de Thierry Jonquet. Catalogue.
Le rapport de Brodeck. Chérub, mission 15. Robert,
vous connaissez ?
Bûche à mort. Début de l'enregistrement, décembre 2005. Introduction, le clan Aramov. En avril 2012, l'agent de Chérub Ryan Sharma a reçu le t-shirt bleu marine en récompense du travail accompli lors d'une opération sous commandement américain visant un réseau de contrebande international basé au Kyrgyzstan, connu sous le nom de clan Aramov.
Même si dans le livre, les personnages sont décrits de manière visuelle, donc c'est des grandes personnes, qui ont une grande barbe, tout ça, je ne me fais pas une image de cette personne, une image visuelle. Pour moi, c'est une personne grande avec une barbe, et c'est tout, en fait. C'est des éléments intellectuels, mais pas visuels.
Suite à un accord conclu avec Irena Aramov, l'ancienne dirigeante du réseau, cette prise de contrôle masquée a été menée par un département de la CIA baptisé ULFT.
D'avoir vu pendant mon enfance des images, tout ça, ça me permet de mieux me réorienter dans l'espace, de comprendre ce que c'est une perspective ou ce que c'est une chose en 3D. Parce que même maintenant, quand je découvre un nouveau objet, je le découvre avec le toucher, donc de manière séquentielle. Et après, je dois recomposer ce que j'ai touché en objet global, en fait. Mais par contre, j'ai quand même encore de la peine à me représenter certains objets en 3D.
On peut dire que c'est des images qui me ressemblent, qui sont vraiment voilà, de mon vécu à moi. Et on peut même dire que c'est des images que personne d'autre ne peut imaginer. Je suis, en guillemets, resté enfermé dans mon imaginaire de l'époque.
App Store, hors le App Store, appareil photo.
Appareil photo. Flash. Automatique. HDR. Désect. Minuteur. Sélecteur de caméra. Face arrière. Viseur. Mode caméra. Photo. Un visage. Petit visage. Visage centré. Un visage. Zéro. Prendre une photo. Un visage. Petit visage. Un visage. Petit visage. Zéro visage. Un visage. Petit visage. Visage près du bord supérieur.
Alors, je prends beaucoup de photos, autant que je peux aujourd'hui, pour deux raisons. La première, c'est si j'ai la chance de revoir un jour, je serais ravi de pouvoir constater tout ce que j'ai pu prendre en photo, revoir ces choses, des souvenirs d'enfance, que ce soit ma famille, des paysages, de pouvoir me représenter tout ce que j'ai pu, entre guillemets, louper, tout ce que j'ai côtoyé, mais sans le voir. Et l'autre chose, c'est aussi pour pouvoir montrer à mon fils et peut-être d'autres enfants ou même mon entourage les différents endroits que j'ai fréquentés, les choses que j'ai pu voir. Donc voilà, je suis très attaché à pouvoir prendre des photos autant que je peux. La manière dont je les prends, c'est grâce à la technologie d'aujourd'hui. Le téléphone me permet de cadrer, par la synthèse vocale, me permet de cadrer. Donc ça me permet facilement de savoir ce que je prends en photo. Je visualise parfaitement l'image de la photo que je veux prendre. J'arrive facilement à me représenter, voilà, toujours d'après ma mémoire, où se situe la personne, comment elle est cadrée, ce qu'elle représente dans le paysage, sans savoir quel est le paysage autour, mais à me représenter, voilà, si elle est cadrée par rapport à ce qui l'entoure.
Un visage, petit visage, visage centré. Prendre une photo, estomper. Un visage, voilà. Zéro visage, prendre une photo, bouton.
Je fais des photos floues, me dit-on, où on ne reconnaît pas les gens. Pas tout de suite, c'est vrai. Elles ne sont pas floues. Elles font le point sur ma mémoire. Elles commencent déjà à se souvenir dès l'instant où je les prends. C'est fragile un instant, à peine un battement de cils, une larme qui roule pour un rire qui éclate. De rien ou de ces instants-là, je veux donner à voir ce qui me reste quand je ferme les yeux. Cette image-là est une image que j'ai pas vue. Je l'ai prise à l'instinct, complètement. Il faisait très froid. Et d'un coup, je me suis dit, tiens, là, peut-être il y a quelque chose, et allons-y. Je n'ai rien vu de ce qui se produisait. Et du coup, quand je la revois aujourd'hui, je me dis, c'est super, parce que quelque part, cette image-là exprime, j'espère, sensoriellement, ce qu'intellectuellement, je suis bien incapable d'exprimer. C'était à Ostende, et je marchais, j'étais un peu égaré dans mes pensées. Il faisait extrêmement froid, et avoir froid à la mer en Belgique, c'est une sensation que j'ai vécue souvent, et qui, je crois, me structure, parce qu'elle me relie. Les sens sont tellement sollicités qu'on est obligé de court-circuiter le bavardage mental pour être ne fût-ce qu'à l'attention de ne pas tomber de froid. Et cette image-là, c'était simplement un petit garçon qui faisait des pâtés de sable. Il y avait la mer déchaînée et l'appareil photo avec lequel je prends ce genre d'image n'est pas du tout un appareil fiable où le viseur rend compte du résultat final. Je l'ai prise comme on s'emporte avant de poser un geste nécessaire. C'était évident, sans aucune réflexion. Et puis, à un moment donné, quand il est donné de regarder ce qu'il y a sur le négatif, cette image-là est restée. Cette image-là est restée, mais elle a rendu compte bien plus que la description que je vous ai faite, un petit enfant qui fait des pâtés de sable sur la mer, elle a rendu compte d'un état d'être que je ressentais, qui était un état d'être orageux, tiraillé, et pour autant, qui n'enferme pas, parce que il y a un mot auquel je suis attaché, c'est le mot « fureur », que j'associe souvent à une thématique qui m'est chère dans ce que je peux faire, c'est la sauvagerie, l'animalité, les animaux. Et il y a dans le premier dictionnaire de la langue française, le Furetière, un dictionnaire du XVIIe, à la définition du mot enthousiasme, ils décrivent la chose comme étant une fureur poétique ou prophétique. Et cette photographie-là, pour moi, rend compte d'un enthousiasme souterrain que j'avais malgré les mois que je pouvais vivre à ce moment-là. Cher moi, tu ne m'as encore rien dit des autres. Est-ce la solitude du lointain qui réactive ton désespoir? Un désespoir décomplexé, serein, celui qui n'attend plus, débarrassé, lucide, place à la vie. Désespéré, comme l'arbre sous la tempête, tenir ou se briser pour avoir osé le ciel, qu'importe. La destinée de la pluie est de tomber en promesse d'océan à venir ou de se perdre au vent mauvais. Pourvu qu'elle tombe, qu'importe. Le désespoir ne se concerne pas de la mort. Il y va comme l'ombre au soleil jusqu'à l'étreinte du crépuscule. Il reviendra aux étoiles de composer les points de suspension de l'histoire à venir, avec ou sans nous, qu'importe. J'ai eu le privilège d'avoir un texte d'un ami sur moi qui parle justement du rapport de la vision, de faire des choses. Et il avait écrit « J'aime beaucoup ce qu'il fait, je veux dire ce qu'il défait, son savoir défaire fait mieux que bien des accomplissements. » La création, ou plutôt l'interprétation, parce que fondamentalement je ne crois pas qu'il y ait vraiment de geste créatif, je crois qu'il y a une disponibilité au monde, et de cette disponibilité peut naître une clarté, quelque chose de ce que les poètes font, hein, ce que Rimbaud fait. Il n'a rien vécu d'extraordinaire. Il a été disponible à la chose, et c'est ce qui rend tant de clarté dans ce qu'il peut écrire. Je photographie profondément le réel. J'y songeais sans chercher à en faire référence. Les aveugles ne vivent pas moins le réel que moi. Les sourds ne vivent pas moins le réel que moi. Donc tout ça, c'est le réel. C'est ma vision du réel qui est forcément une fiction à travers mes sens. Je photographie bel et bien le réel à travers ma peau. J'étais à ces instants-là chaque fois qu'ils se sont produits, et j'y étais de toute ma peau.
Merci à Jean-François Sprissigaud, Sylvie Raffaut, Thibaut Trancard, Xavier Bonneau, Alain Barrier, Marianne Roussy, Martial van der Linden et au 104. Ce souvenir, les yeux fermés, une émission de Raphaël Régnier, réalisation Nathalie Salle, prise de son Martin Guénard et Pierre Quintard, documentation musicale Antoine Villose, mixage Julien Douminc, extrait du film « En silence je l'ai aimé » de Jean-François Sprissigaud, musique Alexandre Tarot, lecture tirée de « Et la lumière fut » de Jacques Lucéran, et de Lettre à quelqu'un de Jean-François Sprissigaud. Attaché d'émission Inès De Bruyne et Alice Ramon, coordination Irène Omelianenko.